Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le rôle de la société civile est incontournable dans le processus électoral. Beaucoup d'observateurs sont unanimes là-dessus, mais est-ce qu'il est bien joué et comment est-il perçu? Le sujet du Grand Dialogue de ce soir, le thème, c'est « Quel rôle de la société civile dans le processus électoral de juillet-août 2018 ?» C'est en partenariat avec le programme d'engagement civique. Et nos invités sont tous de la charte d'engagement public pour l'émergence. Mamadou Sissoko en est le coordinateur, Issa Diawara le chargé de programme événementiel et Djigui Fané, chargé de programme des points focaux. Je suis Mouhamadou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer par vous, Mamadou Sissoko. Vous êtes le coordinateur de la charte d'engagement public pour l'émergence. Quel est le rôle de la société civile dans un processus électoral?
Bonsoir Mamadou Touré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et la charte d'engagement public a pour rôle d'informer, de sensibiliser, de mobiliser les citoyens à une pleine participation au processus électoral. Notamment, nous avons ciblé trois couches spécifiques qui sont exclues dans le système classique, qui sont les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap.
Alors, quel est le rôle de la société civile dans le processus électoral?
Le rôle de la société civile dans le processus électoral, d'abord, le premier rôle, c'est la participation. La société civile, à travers les organisations, doivent amener le maximum de citoyens à participer au processus électoral. Et participer comment? Participer de manière utile en faisant du vote utile.
D'accord. Quelque chose à ajouter, M. Issa Diawara?
Oui, bonjour et à tous et bonjour à tous les téléspectateurs et à tous nos téléspectateurs. Bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je pense que la société civile a un grand rôle à jouer dans le processus électoral, qu'elle soit avant la période électorale, pendant ou après. En ce sens, je pense que la société civile doit se mobiliser pour que nous ayons des élections crédibles et des élections qui puissent refléter les réalités maliennes. Et je pense que cela va de soi avec l'implication inclusive de la société civile dans toutes ses composantes. Voilà un peu, je pense, la société civile, c'est pas seulement un rôle d'aller voter. Il faut être là aussi, il y a la veille citoyenne. Il faut suivre les choses. Donc la société civile doit être tout au long du processus, la société civile doit suivre, doit être impliquée, puisque non seulement il s'agit de mobiliser, et d'assurer, de s'assurer surtout que le vote est fait dans de bonnes conditions et ensuite accompagner les élus. Ça, c'est un peu aussi le rôle de la société civile. Voilà un peu en quelques mots ce que j'avais ajouté.
D'accord. M. Djigui Fané, Issa Diawara l'a dit, le rôle, ça commence avant, pendant et après. On va aller étape par étape. Quel est le rôle de la société civile avant même les élections?
Bonsoir tout le monde et bonsoir à toutes et à tous. Comme les collègues viennent de le dire, la société civile a un grand rôle à jouer dans le processus électoral. Avant, c'est qu'elle doit s'impliquer pour que alors, les communautés, les populations alors, soient en possession de tous les documents nécessaires pour participer au vote. Et aussi, assurer les relations entre ces organisations qui sont chargées alors de piloter le processus électoral, qu'elles soient en contact, que les populations soient en contact avec ces organisations dans la plus grande transparence, dans la plus grande crédibilité. Aussi, la société civile doit jouer son rôle d'intermédiaire entre les organisations politiques, les organisateurs administratifs des élections et la communauté. Donc voilà, avant, ce que la communauté et la société civile peut apporter comme contribution au processus électoral.
D'accord. Mamadou Sissoko, et pendant les élections, qu'est-ce que la société civile doit faire?
Pendant les élections, c'est clair, il faut déjà, la société civile a pour rôle pendant les élections, toujours de mobiliser, d'amener les citoyens à effectuer ce qu'on appelle le vote utile, C'est pour cela, nous, à la CPE, le nom de notre campagne, c'était « La parole aux urnes ». Et nous avons deux slogans qui étaient d'actualité, parce que les résultats nous l'ont montré. Et le premier slogan, c'est « Mon vote n'est pas à vendre ». Et le deuxième slogan, c'est « Mon vote, ma voix, mon choix ». À travers ces deux slogans-là, la société civile doit amener les citoyens à vraiment effectuer un vote utile. Non seulement à ne pas vendre le vote, à ne pas avoir un vote influencé. Ça, c'est un premier rôle.
C'est quoi un vote utile ?
Le vote utile, c'est voter sur la base de sa représentation utile. Il faut voter de manière utile parce que tu auras quelque chose d'utile à venir. Le processus électoral, ce n'est pas les élections seulement. Après les élections, le cycle continue. C'est vrai que nous avons trois, aujourd'hui, quatre phases d'élections, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections communales, il y a les régionales qui vont s'ajouter. Mais après ces élections, le processus ne s'arrête pas.
Choisir en fonction du programme.
Voilà, choisir en fonction du programme. Le vote utile, c'est pour cela, au début, je parlais d'informer, sensibiliser. Le vote utile, c'est que le peuple soit informé sur les différents programmes et que le peuple choisisse en fonction des programmes qui vont combler leurs besoins socio-économiques dans les échéances, les mandats à venir. C'est ça le vote utile.
D'accord. Alors, Monsieur Diggy, Issa Diawara, vous l'avez dit, après les élections, le rôle de la société civile doit être également d'accompagner, mais également de veiller. Mais comment cet accompagnement et cette veille doit s'organiser?
Ok. Je pense que l'accompagnement et la veille s'organisent de sorte que, d'abord, restons dans le cadre légal. Autrement dit, il s'agit de tenir compte du cadre légal. Et notamment constitutionnel. Donc accompagner, parce qu'on ne peut pas confier le mandat à une personne et ne pas suivre la personne. C'est-à-dire juste après l'élection, la société civile doit pleinement participer à l'exécution, à la réalisation du programme même du candidat que les populations ont eu à élire. Donc quand on élit quelqu'un, on doit l'accompagner. Il y a des mesures d'accompagnement. Ceci étant en l'aidant à exécuter et ce programme, et non pas laisser la personne, et quand la personne est au dos au mur, ensuite crier. Donc la veille citoyenne, c'est un peu ça. On confie un mandat. C'est le peuple qui confère le mandat à l'élu. Vous avez un mandat de faire ça et de faire cela. Donc le peuple, en tout cas, la société civile doit s'assurer que l'élu est en train de mettre, d'exécuter pleinement les mandats qu'on lui a conférés en exécutant toutes les attentes et des populations, en tout cas de son programme. Donc, parce qu'on est élu à la base d'un programme. Et dès qu'on est élu, la société civile doit s'assurer que le programme en question est en train d'être mis en exécution. Et non de rester là, de croiser les bras et attendre peut-être 5 ans après et dire que oui, peut-être vous aviez dit ça, vous n'avez pas fait ça. Il faut l'accompagner dans ce sens. Il faut qu'il ait cette veille citoyenne. Donc, la société civile, en un mot, doit jouer ce rôle de superviseur. Elle doit être là. Au débit, du débit jusqu'à la fin du processus. Donc il faut être là, il faut accompagner. D'accord. Il faut avoir l'œil sur ce qui se passe. Voilà.
D'accord. Alors, M. Diggifani, quelque chose à ajouter ?
Bon, la société civile, par la veille, exige la redevabilité alors des élus. Parce que, comme le collègue vient de le dire, vous avez été élu en fonction d'un programme. C'est ce qu'on nous a dit, vote utile. Donc, la société civile doit veiller surtout à ce que les élus fassent des comptes rendus. La société civile doit veiller aussi à des prises de décision publiques. La société civile aussi doit alors, c'est ce que j'ai dit en un mot, exiger la redevabilité des élus par rapport aux communautés et aux populations.
D'accord. Okay. Monsieur Mamadou Sissoko, parlons du processus électoral en cours, juillet-août. Quel a été le rôle de la société civile malienne de façon générale dans ce processus?
Bon, de façon générale, les organisations de la société civile, de manière active, se sont retrouvées sur plusieurs programmes d'action. Les organisations ont mené plusieurs actions. Mais je préférais faire un focus sur un grand programme sur lequel nous on a intervenu, la CPU, qui est le programme...
Parlons de la façon générale d'abord et après...
De la façon générale, oui. Oui, de la façon générale, on a eu des organisations qui étaient sur la participation, mm-hmm. d'autres qui étaient sur l'observation électorale. Mm-hmm. Et voilà, c'est de façon générale, d'autres étaient aussi sur la sensibilisation. D'autres ont joué un rôle grand entre le premier et le deuxième tour, qui était un rôle d'apaisement du climat social.
Certains pensent que ce rôle n'a pas été bien joué parce que une bonne partie, sinon une grande partie, selon eux, de la société civile aujourd'hui est politisée.
Exactement. C'est ça, faire... Il n'a pas interdit. Il n'est pas interdit, hein. Il faut le dire, parce que ça roule, les gens le disent, on entend ça partout. Il n'est pas interdit à un membre d'une organisation de la société civile de faire de la politique. Mais il est interdit à un leader politique de la société civile de militer politiquement dans un parti politique. Et c'est ce qui se fait au Mali. Et c'est de là que soit ce leader-là, il perd son crédit auprès de la société civile, mais il perd son crédit auprès de la classe politique. Et il arrive à des moments où ils perdent même leur crédit face au peuple. On a vu plusieurs événements, preuve du chaos au Mali ici, où certains acteurs de la société civile, quand ils se levaient pour intervenir, le climat social était apaisé. Mais aujourd'hui, vous voyez la situation qu'on traverse. Quel est l'acteur de la société civile qui a osé prendre le devant et calmer les choses? Ils ont presque tous perdu du crédit.
Même les leaders religieux?
Je peux le dire, ils ont tous perdu du crédit parce qu'on allait loin, là où ils devaient réagir, ils n'ont pas pu réagir. Le crédit n'est pas là, c'est clair, tout le monde a peur. Mais personne ne parle. Parce que tu as peur toi-même encore d'être accusé. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de crédit.
D'accord. Monsieur Diawara, est-ce que ces leaders ont eu tort de s'impliquer dans la politique?
En quelque sorte, je dirais oui. Oui, pourquoi? En réalité, moi personnellement, en ce qui concerne mon point de vue, je pense qu'il y a de ces leaders au Mali, tel le Mali, connaissant le fondement du Mali, il y a de ces leaders qui ne doivent pas être très affichés politiquement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé.
Très affichés, ils doivent être dans la politique, mais pas affichés.
Oui, c'est-à-dire, au Mali, on ne peut pas l'exclure. Ils peuvent, s'ils sont dans la politique, bon, je ne sais pas, jouer le rôle de médiateur dans la politique. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer totalement de la politique. Moi, personnellement, j'ai jamais adhéré à un parti. Mais je pense qu'ils ne doivent pas s'afficher de trop, jusqu'à donner des consignes publiquement à suivre un tel candidat ou à ne pas suivre un tel candidat. Et je pense avec cela, ils perdent vraiment du crédit. Puisque avant qu'ils ne s'hasardent à s'aventurer dans ce jeu, autrefois, ils étaient pour nous une sorte de Muronaba de Burkina. C'est-à-dire, quand ça n'allait pas, on tournait vers eux. Et c'était qu'on écoutait. Et on n'est pas sans savoir, je pense, au fort moi-même, quand ils avaient suffisamment de poids, vous le savez aussi bien que moi, même le général Amadou Aya Sanogo, je pense que c'est grâce à l'intervention des leaders religieux qu'il avait fait beaucoup de concessions. Et même, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup impliqués politiquement, à telle sorte qu'ils ont du mal à se faire attendre par tous les camps. Parce qu'on peut se faire attendre d'un camp, mais pas de l'autre camp. Or, auparavant, ce sont des gens qui faisaient presque l'unanimité. Mais malheureusement, c'est ce crédit qu'ils ont perdu. Et cela a des répercussions directement sur le déroulement de ces élections et sur l'apaisement même de la société.
D'accord. Voilà. Monsieur Fanny, est-ce qu'il y a quand même certains qui sont restés neutres sur qui on peut compter, les responsables de la société civile, ou bien aujourd'hui c'est peine perdue?
Bon, moi je trouve que c'est pas encore peine perdue. Quand même, l'affichage là, par rapport à telle ou telle structure politique, ou bien par rapport à tel ou tel leader, ça c'est vraiment quelque chose à condamner, c'est quelque chose à regretter. Mais dire que c'est peine perdue, moi jusque-là, ce n'est pas peine perdue. Parce qu'il y a de ces leaders qui ont quand même déclaré à un certain moment qu'ils ont leur candidat, ils vont voter comme tous les citoyens, mais ils ne vont pas donner, alors afficher une appartenance politique ou bien donner une consigne de vote. Moi, je pense qu'il y a de ces leaders qu'on peut rapprocher toujours, et aussi, il peut être facteur à aller vers les autres et pour qu'on ait alors cette société civile, et cette communauté religieuse aussi respectée et respectable à l'OTAN. Donc moi je pense que ce n'est pas encore peine perdue. Ils peuvent s'asseoir, échanger, dire aux uns et aux autres, voilà notre position, voilà ce que nous devons faire. Nous devons aller plutôt avec la société civile, beaucoup plus avec la société civile qu'avec les partis politiques ou bien les leaders politiques. Moi, je pense que ça, c'est...
Est-ce que les responsables des partis politiques également ne doivent pas désormais laisser tranquille la société civile?
Bon, maintenant, on doit les laisser tranquilles. Mais comme ils sont devenus pourvoyeurs d'électeurs, c'est ça la problématique même. Parce que on dit, en rapprochant tel ou tel leader religieux, son influence sur le potentiel électoral est tellement important que on va même au-delà de la démarche. Parce que la démarche, elle peut être méthodique, elle peut être... C'est normal aussi, mais quand on va faire des gestes matériels et financiers aussi importants, ça va influencer aussi ce leader. Et c'est ce qui amène à les afficher davantage. Donc, moi, je pense que les partis politiques, les leaders politiques doivent aller vers les leaders, mais de façon, comme on dit, non, de façon un peu masquée, parce qu'effectivement, ils sont incontournables. C'est des pourvoyeurs d'électeurs, ils ont un potentiel d'électeurs derrière eux, mais comme on dit dans d'autres pays, c'est des grands électeurs. Mais il y a une manière aussi de les rapprocher. Donc, cette démarche doit être beaucoup plus étudiée, adaptée à leur statut que de la façon dont on est en train de faire actuellement.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Sissoko, je reviens encore à vous. Quand on voit cette situation, est-ce qu'on peut parler réellement de société civile au Mali?
Justement, très belle question, parce que mon intervention même allait... J'allais intervenir à la suite de Monsieur Fanny, c'est ça. On ne peut pas parler de société civile, parce que les partis politiques ne sont pas accusés, hein. Les partis politiques sont dans leur rôle, qui est de mobiliser le maximum d'électeurs au sein de la population. Et ces organisations de société civile-là, c'est des Maliens qui ont des cartes NINA qui vont voter. Les partis politiques sont pleinement dans leur rôle. Je n'accuserai aucun parti ni aucun leader politique. Si cette société civile souhaite migrer vers le militantisme, c'est elle qui s'est détruite. Ce que le parti politique va mobiliser, c'est à la société civile de dire non, je suis apolitique. Comme ça se trouve dans tous les tests. Au lieu d'agir ainsi, il faut agir comme ça. Ziguel a dit, il y a les méthodes. Je prends le cas de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. La FEMA n'a pas ouvertement soutenu un candidat aux élections présidentielles. Mais nous sommes représentatifs dans toutes les régions du Mali, dans tous les cercles du Mali, et même dans les villages. On a des fédérations régionales dans toutes les régions, des fédérations locales de personnes handicapées dans tous les cercles, y compris même les communes d'ici de Bamako. Mais qu'est-ce que nous on a fait? On a, au lieu de donner des consignes, je reviens, je parlais de vote utile, et je parlais de représentation utile. Pour que nous, personnes handicapées du Mali, nous soyons représentés de manière utile, voici nos besoins à travers un manifeste que nous avons élaboré. Et ce manifeste a été soumis à tous les partis politiques. D'autres ont signé la totalité, d'autres ont signé quelques points. Il y a eu un échange entre cette société civile et tous les candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, personne ne pourrait taxer la FEMA d'avoir soutenu tel ou tel candidat. Mais notre manifeste est là. Et maintenant, dans le cadre de la représentation utile, nous allons commencer maintenant le plaidoyer avec le contenu de notre manifeste pour que nos besoins soient satisfaits. C'est ça une société civile. Mais quand directement un leader d'une société civile fait une conférence de presse et dit « je soutiens tel candidat », tu deviens politique, tu n'es plus société civile. Ça, c'est clair. Parce que déjà, toi-même, ton statut, si on doit se baser sur le statut déjà de son organisation, elle est à dissoudre.
D'accord.
Voilà.
Monsieur Diawara, est-ce que l'État malien n'a pas son rôle aussi? Parce qu'on voit beaucoup d'associations qui se créent dans les textes, appelées associations apolitiques. Et dans les faits, on voit ces associations elles-mêmes qui soutiennent, qui font de la politique.
Oui, vous savez, oui, ça va. La question peut-être serait qui s'arrange. Ok. Qui s'arrange si peut-être il y a des leaders politiques qui trouvent leur compte dedans. Je pense qu'ils ne peuvent qu'encourager les phénomènes. Et peut-être, je parle au nom, comme le coordinateur vient de le dire, et l'ACP, c'est une coalition de 4 organisations de société civile. Et nous sommes dedans, nous, en tant que RGA, Réseau des jeunes actifs, donc je préside un mouvement national des jeunes. Donc nous avons été presse de tous les fronts, de toutes les manifestations, si possible, et nous n'avons donné consigne de vote à personne. Pourquoi? Je pense que cela demande une certaine maturité aussi. Et je pense qu'il faut davantage former ces leaders de la société civile, à leur rôle surtout. Parce que rares sont ceux qui fonctionnent avec même les règlements, les statuts de leur association. On s'y procure ça.
Parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils ne veulent pas le faire?
Parce qu'ils ne le savent pas, je pense. Et il y a aussi manque de volonté. Mais si on ne sait pas quelque chose, je ne vois pas comment la volonté va se manifester en ce moment. Donc, ils ne le savent pas. Et je pense que c'est aux leaders, surtout aux leaders de la société civile, d'être formés. Ils doivent se former sur les rôles qu'ils doivent jouer durant un processus électoral. Et sinon, ce qui se passe, c'est un peu un système de grands électeurs qui ne dit pas son nom au Mali. Et ce qui est très grave. Or, normalement, au Mali, je ne suis pas un conseiller et je ne suis pas un juriste, mais je pense que chaque vote correspond à une voix. Chaque vote correspond à une voix. Mais si une seule personne peut faire voter tout un village, ou une seule personne peut faire voter toute une association, sans que les gens prennent conscience de ce qui se passe, c'est ce qui contribue à détruire cette société civile. Il est temps que les gens se démarquent de cela. Quel qu'en soit le bord dans lequel vous êtes censé vous trouver, il est temps que les gens montrent une certaine maturité. Moi qui parle, moi j'ai ma mère qui milite au sein d'un parti. Mais moi je n'ai jamais milité au sein d'un parti et je ne vois pas pourquoi je vais aller dans ça. Mais quand il y a élection, je suis citoyen malien, je vais voter, mais je ne donne pas de consigne de vote. Et puis mon vote, ça reste un secret pour moi. Et voilà vers quoi je pense que les leaders de la société civile doivent aller. Surtout, cela, nous le constatons généralement actuellement, hein. Surtout dans la couche et jeune, autrement dit au niveau de la jeunesse. Que soient les étudiants, ceux qui viennent de commencer à travailler, ceux qui sont au chômage, et ce qui est très dommage. Or, nous devons être là, un groupe de pression. C'est-à-dire, nous devons élire les candidats. S'ils ne travaillent pas bien, nous pouvons mettre la pression, maintenir la pression, jusqu'à ce que les candidats puissent revenir à des bons sentiments, surtout. Donc, nous devons être là. Mais je pense que ce qui se passe n'arrange pas le pays. Ça n'arrange pas la jeunesse, ça n'arrange pas la société civile. Nous affaiblissons. Et puis nous affaiblissons, cela a des répercussions sur le pays et le Mali est ce qu'il est aujourd'hui.
Parce que vous pensez quand même quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent aujourd'hui, quand on l'appelle pour lui proposer 5000 francs aujourd'hui, il doit le refuser. Parce que lors de ces élections, on voit beaucoup de motocyclistes au niveau des stations. On voit des sotramas qui vont chercher beaucoup de personnes qui viennent, qui n'ont pas assez de moyens. Donc vous pensez qu'ils doivent refuser ça?
Moi qui parle, qui vous dit que je suis riche, moi? Peut-être que je suis dans le même cas qu'eux, mais il y a des dignités qu'il faut préserver. Et quand on aime sa patrie, il y a de ces choses qu'il faut refuser. Vous prenez 5 000 francs, vous divisez 5 000. Et je ne sais pas, essayez de faire le dispatching, il dira 5 ans, un mandat fait au moins 5 ans. Ça te coûte combien par jour? Tu n'as même pas 5 francs, tu n'as pas 10 francs. Et au même moment, tu as pris cela, la personne se dit, de toutes les façons, moi j'ai acheté mon électorat. Et la personne peut se taper des milliards à gauche et à droite. Après, oserais-tu aller créer ça dans la rue? Non. Pour pouvoir aller dénoncer certaines choses, il faut s'assurer qu'on est clean. Il faut s'assurer que je n'ai pas participé à tout ce qui s'est passé. J'ai dit non à ça. C'est vrai, les milliards et les millions là, c'est bon. Mais il y a de ces millions qu'il ne faut pas toucher.
Donc tu ne peux pas exiger quelque chose de quelqu'un qui t'a acheté?
Non, tu ne peux pas. Tu perds ton moyen de pression carrément. Mais si tu n'as pas acheté, tu peux l'exiger. Tu peux lui montrer, tu peux lui rappeler, tu peux à tout moment lui rappeler à l'ordre. Dire que le Mali, ce n'est pas toi. Ces institutions sont là. Ces institutions doivent demeurer, que ce soit avec vous ou sans vous. En ce moment, vous avez votre mot à dire. Mais tant que vous êtes déjà acheté, vous devenez une marchandise là. Que voulez-vous que la marchandise dise de son propriétaire? Ce n'est pas possible. Non, il faut qu'on se dise les choses en face. Un billet que vous avez acheté pour la Tabaski ne peut pas vous dire que je ne vais pas être gorgé.
Il va juste crier.
Ouais. Merci.
Alors, est-ce que dans ces conditions-là, les Maliens doivent beaucoup plus penser à l'avenir qu'au jour J? puisque certains se disent bon, je cherche à combler le vide qu'il y a aujourd'hui, demain, Dieu est là.
Oui, les moyens doivent aller dans ce sens, parce que comme le collègue vient de développer, nous, d'abord, un des slogans de la CPE, c'est ça. Mon vote n'est pas à vendre. Il ne faut pas vendre son vote. Hein? Donc, maintenant, les Maliens doivent aller dans le sens de refuser la conditionnalité du vote à quelque chose. Hein? Parce que là, voir l'avenir même du pays. Parce que, comme il vient de le dire, j'ai une voix achetée. Mais je ne peux pas critiquer. Hein, ne peut pas proposer. Il ne fait qu'abdiquer. Et comme je l'ai dit plus loin, la redevabilité, on ne peut plus l'exiger. N'est-ce pas? Mais au passage, vous avez dit aussi, vous avez posé la question, l'État n'est pas fautif ou bien. Mm-hmm. Ouais, moi, je dis, l'État doit veiller. L'État doit veiller parce que vous délivrez des documents administratifs et juridiques qui sont très importants, dans lesquels les initiateurs disent « nous sommes apolitiques ». Comme Cicero l'a dit, apolitique ne veut pas dire que je suis contre la politique. Cela veut dire que je ne peux pas être militant d'un parti. Mais tant que je suis organisation, en agissant au nom de mon organisation, et que je suis apolitique en ce moment, et mon organisation doit jouer ce rôle que j'ai mis dans mon statut apolitique et que je dois veiller. Donc je dois être plutôt là à jouer entre les politiciens, la politique et la société. Mais on est en train de confondre ce rôle de citoyen. En tant que citoyen, je dois être un militant d'un parti, mais en tant qu'organisation, mon organisation ne doit pas être au service d'un parti. Les gens ne parviennent pas à faire cette différence.
Est-ce que c'est une question de volonté ou de connaissance? Est-ce que c'est pas parce qu'il ne veut pas?
Moi, je trouve qu'il peut y avoir les deux. Un, il y a d'abord la méconnaissance. On se procure d'un texte, mais l'application, c'est ça l'application. C'est moi, je ne peux pas dire méconnaissance, hein, parce que vous avez élaboré des statuts règlements, vous avez soumis à une administration qui a vraiment délivré un document administratif dont vous vous servez pour mener des activités, ce n'est pas la méconnaissance. C'est plutôt l'application, dans l'application qu'il y a. Alors, cette volonté manifeste de faire semblant en disant, est-ce que c'est pas? Si les militants ne le savent pas, pourquoi ne pas former les militants? Et si les responsables d'organisation aussi ne parviennent pas à appliquer, pourquoi l'État n'interpelle pas à travers... Je pense qu'il y avait, au niveau du ministère de l'administration territoriale, un organe de contrôle de ces organisations. Pourquoi ne pas les interpeller? Soit à travers des cadres de concertation, soit à travers des actions de formation, d'information et de sensibilisation, bien avant qu'on lance la campagne politique. En ce moment, ce rappel aussi peut faire une prise de conscience à certains responsables qui vont avoir le courage d'aller restituer à leurs militants. Voilà ce qui devait être notre position. Dans vos quartiers, vous êtes des militants, mais n'agissez pas quand même au nom de l'organisation pour imposer tel ou tel acte.
D'accord. Monsieur Cissoko, alors quand on entend tout ça, est-ce que ce qui se passe au niveau de la politique, quand on parle de politique, on pense très souvent au gouvernement, est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe au niveau de la société civile, dans les associations? Puisqu'on voit généralement les présidents qui ne veulent pas restituer, ils ne veulent même pas que les militants savent ce qui se passe pour rester au plus haut niveau.
Oui, ce que moi je veux dire à ce niveau-là, il y a un seul responsable. Et il y a des effets des responsabilités qui descendent par portion. Le seul responsable, c'est l'État. Pourquoi c'est l'État? Parce que...
Qui est l'État?
L'État, c'est l'ensemble des institutions. Parce que il faut qu'on définisse ça bien. Très belle question. Mais qui est l'État? Toi, tu es l'État, moi, je suis l'État. Non. L'État, c'est l'ensemble des institutions dans leur gouvernance. C'est ça l'État. On en a 8 au Mali ici. De la présidence au Conseil économique et social. On en a 8. Pourquoi je dis c'est l'État qui est responsable?
Mais le Malien lambda ne fait-il pas partie de l'État?
Je vais venir. Le Malien lambda a son rôle. Mmh. Quand je parlais d'effet des responsabilités, et c'est ça, au fait. Le Malien lambda a son rôle. Mais c'est l'État d'abord. J'accuse l'État d'abord. J'insiste même. Parce que on arrive en démocratie en 92, n'est-ce pas? Mmh. Avec un nouveau régime. Mmh. Nous sommes en démocratie. C'est un environnement nouveau. On devient un État de droit. Il y a des titulaires de droits et des détenteurs d'obligations. Le Malien lambda, il est titulaire de droits. Parce que c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple. Mais pour plus de cohérence, le peuple confie un mandat. Le président élu n'a pas le pouvoir. C'est un mandat qu'il a confié, un mandat de 5 ans. Il faut préciser ça. Et dans ce mandat de 5 ans, tu arrives en démocratie. Tu as une population. C'est une nouvelle approche, l'État des droits. Ton premier rôle, c'est d'éduquer cette population. Et de 92 à maintenant, je ne crois pas que ce peuple-là a été éduqué de manière citoyenne, de manière civique. Sinon, il n'allait pas se prêter à prendre 5 000 francs pour voter.
Oui.
Attendons-les, ils ne savent pas. Le rôle de l'éducation, ça revenait à l'État d'abord.
Mais attendez, maintenant, vous l'avez dit, voilà, ça fait maintenant, combien de mandats qui ont passé, les gens continuent à prendre de l'argent et à subir la même chose. Et jusque-là, vous pensez qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit?
Je viens, il faut qu'on explique ça avec détail pour que les gens comprennent. Mmh. Vous voyez un peu? Mmh. Après ça, c'est parce qu'il y a eu cette insuffisance en démocratie. Nous sommes venus en 92, 97, 2002, on dit, il y a des insuffisances au Mali. Mmh. Voilà comment les partenaires techniques et financiers viennent. Ils viennent pour combler les insuffisances. Au fait, c'est ça leur rôle. Ils ne viennent pas comme ça. Quand tout va bien, tu ne vas pas le voir. C'est là où il y a des insuffisances, ils viennent combler avec des programmes, des projets et autres. C'est en ce moment que la société civile, maintenant, comme l'État n'a pas joué ce rôle, vous, les organisations de société civile, vous êtes le relais entre l'État et cette communauté de personnes handicapées, et cette communauté de jeunes ou cette communauté de femmes. Venez, on va vous appuyer pour éduquer la population. C'est en ce moment qu'on responsabilise la société civile. Vous comprenez un peu? Ça, c'est au deuxième niveau. Et la société civile, dans sa gouvernance, qui est à l'image de la gouvernance de l'État, vous m'excusez, comme vous avez dit, en ce moment, nous avons des militants au sein des organisations de la société civile aussi, qui seront accusés eux-mêmes personnellement. Parce que si la société civile avait pu jouer ce rôle que l'État, d'éducation que l'État n'avait pas pu jouer, on n'aurait pas vu ces scènes-là. Et la société civile, le président de la société civile, des organisations de la société civile qui ont une gouvernance à l'image de celle de l'État, qui sont amis à nos cadres de l'État, donc encore vont décevoir une deuxième fois. Vous comprenez un peu? Et le Malien, il se retrouve face à son propre sort. Moi, je ne veux pas accuser le lecteur vendu. Je ne veux pas l'accuser. Au contraire, j'ai beaucoup de peine pour lui. Même dans ces fautes-là, je le comprends, je le soutiens. Parce qu'il devait être sorti. Quelqu'un qui se noie doit être sauvé, sinon il va se noyer. Et il est en train de se noyer. Nous ne sommes pas en train de le sauver. L'État n'a pas pu le sauver, la société civile n'a pas pu le sauver. Il ne faut pas les accuser. Ils ne sont pas représentés de manière utile. Donc, ils sont au chômage, ce n'est pas un problème. Ils vivent avec un handicap, leur insertion socio-économique n'est pas un problème.
Est-ce
ils sont
que
dans
cela
la précarité.
Ne relève pas également de l'échec des partenaires techniques et financiers? Parce que vous l'avez dit, ils sont venus pour soutenir. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause aujourd'hui les stratégies qu'ils utilisent?
Des partenaires techniques et financiers. Ouais. Je ne vais pas aussi remettre en cause leurs stratégies. Et je le dirai pourquoi.
Mais pourquoi leur stratégie ne fonctionne pas alors?
Leur stratégie est mise en œuvre, mais dans un État souverain. Et l'argumentaire utilisé, malheureusement, par nos mauvais gouvernants, c'est « nous sommes un pays souverain ». Vous ne pouvez pas vous initier jusqu'à tel niveau. Et c'est ça, la triste réalité. C'est nous-mêmes qui sommes nos bourreaux. C'est ce que
non,
nous
pas,
disons...
Pas dans la gestion de l'État, mais dans la sensibilisation, l'information, de la responsabilisation de la société civile, par exemple.
Oui. Quand les partenaires techniques et financiers, ils n'agissent pas sur le terrain directement. Ils passent toujours par les organes. Je peux vous prendre le cas de la CPE. La CPE, on a 4 organisations de la société civile, dont CRI 2002, la FEMA, ADFIM et RJA. C'est une coalition. C'est le chef d'engagement public pour l'émergence. Mais nous nous retrouvons au sein du programme Emerge. Le programme Emerge est piloté par le NDI, mais c'est un financement de l'USAID. Vous voyez un peu.
Justement, je vais revenir toujours à la question.
Oui.
Les responsables de ces, certains des responsables de cette société civile qui donnent des consignes de vote, qui vont sur le terrain, est-ce qu'ils n'utilisent pas l'argent également de ces partenaires-là pour aller donner des consignes de vote? Issa Diawara veut réagir là-dessus.
Ouais, vas-y.
Oui, et pas forcément. Et l'argent des partenaires pour donner des consignes de vote, et puisque des... Les leaders de la société civile qui s'hasardent à faire cela, généralement, ils ont leur source de financement. Et ce sont des financements un peu gauche, je pense. Moi, ce que j'ai dit, c'est...
Des PTF gauche.
Oui. Ils ont leur financement qui est, leur source de financement qui est vraiment gauche. Mais je pense, tout revient à ce qu'il vient de dire. Il y a ces problèmes d'éducation et de formation. J'avais à le dire. Il faut former vraiment les leaders de la société civile. Et moi, je suis surpris... que je suis professeur d'enseignement secondaire général. J'ai surpris que dans les manuels, dans les programmes scolaires du Mali, et même universitaires, sauf ceux qui vont faire la faculté des droits, il n'y a aucun programme qui fait référence aux droits. C'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens dans ce sens. Il faut qu'on forme les gens à la démocratie dès même l'école fondamentale. Autrement dit, à partir de la 7e année. Si à partir de la 7e année, On nous enseigne des programmes du soir. Hitler a fait ça, je ne sais pas, le Brésil en géographie, le Brésil a fait ça. C'est vrai, mais il faut que les gens sachent dans quel pays je vis. Il faut surtout enseigner le Mali aux Maliens. Moi, je tiens beaucoup à ça. Et c'est ce qui manque. Et, je ne sais pas, grâce au studio Tamané, si nos autorités pouvaient attendre et vraiment tenir compte de cela, ça, c'est vraiment un appel que je lance. Il faut qu'on forme les Maliens démocratiquement, la culture démocratique. Comme il a dit, c'est quelque chose que nous sommes appropriés en 92. Donc, à partir de 7e année, 8e année, 9e année, c'est-à-dire, dès quand l'enfant atteint 18 ans, ça serait presque impossible de le corrompre.
Il est pressé de voter.
Voilà, il est même pressé. Ça serait impossible de le corrompre ou de le dévier ou de le laisser entre les mains des soi-disant leaders de la société civile. Parce qu'il ne faut pas que donner des consignes de vote. Si c'est limité à donner des consignes de vote, là, moi, j'ai tiré, alhamdoulilah, ça va un peu. Mais créer la zizanie, c'est ce qui est très grave. Créer des troubles dans le pays, parce qu'il contribue à faire cela. Vous avez votre récépissé, on dit vous êtes apolitique, on ne doit pas vous voir militer activement pour un parti politique. L'État doit mettre fin à cela. Et ça, si les jeunes sont formés, aucun jeune ne doit accepter. Moi, je suis membre d'une association, que le président de l'association ou son coordinateur se livre à de telles pratiques. Mais c'est parce que les jeunes ne sont pas formés. Ils disent oui, nous voulons notre part, à Marobantala, nous voulons notre part de gâteau, et on leur donne 5 000, 10 000. Ensuite, c'est eux qui crient dans les rues. Un tel parti politique sort, ce sont les mêmes jeunes. L'autre sort, ce sont les mêmes jeunes. Qu'elle soit la majorité, l'opposition, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve généralement dans les rues. Ça, c'est dû au fait que les gens ne sont pas formés. Ils n'ont pas cette culture démocratique. Et cela, rien n'est perdu. On peut mettre peut-être 5 ans, 10 ans à mettre ça en place. Mais je suis sûr et convaincu qu'après 10 ans, cette culture serait ancrée dans chaque Malien qui partira à l'école. Dans chaque Malien qui va côtoyer quelqu'un qui a été à l'école, dans chaque Malien qui habite un village où au moins quelqu'un a été à l'école. Et c'est ainsi qu'on peut atteindre toute l'étendue du territoire du pays. Donc il faut former les gens.
Justement, est-ce qu'il ne faut pas changer de langue également? Puisque le français qui est utilisé, est-ce qu'il est accessible surtout au fin fond du pays?
Au fin fond du pays, ça dépendra du taux de scolarité. Autrement dit, d'alphabétisation. Et si nous avons un taux de scolarité qui dépasse 60%, ce qui veut dire que c'est à peu près tous les Mali, ça peut aller. Mais peu importe, la langue n'est qu'un moyen, moi je pense. La langue, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Le but, c'est quoi? C'est que les jeunes Maliens comprennent le processus électoral.
Mais pour qu'ils puissent comprendre, est-ce qu'ils ne doivent pas aussi être sensibilisés dans la langue qu'ils comprennent?
Si cela est nécessaire, oui. Si l'enfant ne peut comprendre
quelle est la solution, est-ce qu'il faut sensibiliser dans les langues locales ou est-ce qu'il faut augmenter le taux de scolarisation, ce qui semble être également une autre difficulté?
Nous avons, en ce sens, à peu près, je dirais, deux types de Maliens. Ceux qui côtoient les milieux scolaires, universitaires, et ceux qui ne le côtoient pas du tout. Ceux qui n'ont accès, ceux qui ne maîtrisent que leur langue maternelle, qu'elle soit sonique, peul, dogon, sorel, je pense qu'il faut les former dans leur langue. Mais ceux qui vont à l'école, nous avons une langue officielle qu'on ne peut pas exclure.
Est-ce que ceux qui vont à l'école tous comprennent le français?
Bon, là, ça soulève un autre débat.
Ça nous ramène à la qualité de l'éducation.
Oui, ça c'est l'autre débat. Ça, c'est la qualité de l'éducation. Sinon, la langue officielle du Mali, c'est le français. Les cartes d'identité sont élaborées en français. Les diplômes en français. Les sujets sont en français.
D'accord.
Maintenant, si l'élève ne comprend pas cela, ça c'est un autre débat.
D'accord, il nous reste quelques minutes. On va parler de la charte d'engagement public pour l'émergence. Monsieur Djigui Fané, quel a été le rôle de la charte d'engagement public pour l'émergence? Monsieur Sissoko en avait parlé un peu. Est-ce que vous pouvez détailler un peu?
Bon, la charte d'engagement public, comme l'autre collègue l'a dit, Diawara, c'est la volonté des responsables de quatre organisation de la société civile, ADFIM, Association malienne pour le développement de la femme intellectuelle, l'AFEMA, la Fédération des personnes vivant avec handicap, RJA, le réseau jeune actif, CRI 2002, alors le cercle de réflexion. Donc, c'est la charte d'engagement de la SPE. Elle a un rôle à jouer, surtout dans l'information, la sensibilisation et la mobilisation des communautés, surtout nos groupes cibles, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap, à jouer leur partition dans non seulement l'organisation des élections, mais aussi au vote et, comme on va dire, bientôt à la veille. Donc ces personnes, ces groupes-là, nous les avons identifiés parce qu'on a trouvé que traditionnellement, c'est des groupes lésés, surtout dans le processus électoral, par rapport d'abord à l'accès. Quand je prends le cas des personnes vivant avec handicap, bon, s'ils doivent partir voter, il faut des conditions particulières, il faut alors des mesures particulières. Et le jeune et les femmes, ils ont été utilisés comme tout le temps comme des animateurs. Ils ont été utilisés comme je l'ai toujours dit, ils sont des électeurs, mais les responsabiliser, hein, afin que ils puissent jouer pleinement leur rôle. C'est à cela que la CPE veille.
D'accord. Voilà. Monsieur Sissoko, quelque chose à ajouter?
Oui, comme il a dit. La chaîne d'engagement public, en plus de ces organisations, déjà il faut noter que les femmes au Mali représentent 53% de la population. Les jeunes entre 18 et 35 ans qui représentent 26% de la population. Et de ces 26% de la population-là, 55% se retrouvent dans la population électorale. Et les personnes handicapées qui représentent aussi 15% de la population. Donc cette coalition, c'est un peu regrouper toutes les couches de la société civile qui sont d'une manière ou d'une autre exclues du processus électoral, essayer de les renforcer à travers des informations, des sensibilisations et des mobilisations afin d'accroître le taux de participation de ces cibles qui va contribuer à l'accroissement du taux de participation générale. C'était un peu ça le rôle de la charte. Et on a eu, pendant les élections présidentielles, nous avons eu des activités que nous avons menées. Et notamment un focus group qui s'est tenu pour les régions du Nord et les régions du Sud, et aussi une enquête Riwi qui s'est passée sur Internet, qui nous a amené à avoir la perception de la population sur le processus électoral, même sur les élections. Et c'est sur la base de ces deux activités que nous avons élaboré, comment on appelle ça, le nom de la campagne. Donc, choisir le nom de la campagne et les messages.
D'accord.
Donc, mon vote, la parole aux urnes, ça c'est le nom. Et mon vote n'est pas à vendre, mon vote, ma voix, mon choix.
D'accord. Issa Diawara, en 30 secondes, est-ce que le processus va se poursuivre avec les législatives également?
Oui, et le processus va se poursuivre avec les législatives que connaît généralement, traditionnellement, un taux de participation bas au Mali. Donc, il est temps. Mais là, il faut sensibiliser les jeunes, qu'ils connaissent d'abord quel est le rôle des députés.
Le temps est écoulé. Merci beaucoup. Le thème de ce débat, quel rôle de la société civile dans le processus électoral de juillet-août 2018. Nos invités tous de la charte d'engagement public pour l'émergence. Mamadou Sissoko, le coordinateur, Issa Diawara, chargé de programme événementiel, et Djigui Fane, chargé de programme Point Foco. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique à la réalisation. Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diawara, à la régie vidéo Peting Diawara. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumondi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.